France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et directrice d'une nouvelle revue, L'Audace. À ses côtés, l'audacieux Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur la passe d'armes à l'ONU entre Donald Trump, le président américain, et son homologue chinois Xi Jinping au sujet du climat. Et puis pour le débat, place à la condamnation à 5 ans de prison de Nicolas Sarkozy. Cette condamnation est-elle de nature à renforcer ou à affaiblir notre confiance en la justice? On posera la question à deux invités, Anne Levade, professeure de droit public à l'Université Paris 1, qui a dirigé la haute autorité du parti Les Républicains pour les primaires, et Marie Dauzet, avocat pénaliste, qui a sorti cette année un éloge de la présomption d'innocence aux éditions de l'Observatoire. Mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Bravo pour l'audace, Natacha.
Merci.
Un duel un peu plus court ce midi, s'il vous plaît, pour conserver du temps pour notre débat sur la condamnation de Nicolas Sarkozy avec nos invités. Allez, on va commencer donc avec la 80e Assemblée Générale des Nations Unies, qui s'achève ce week-end avec l'un des discours les plus attendus, comme toujours, celui de Donald Trump. C'était mardi, et il a mis à nouveau la pression sur nous, les Européens.
L'Europe doit passer à la vitesse supérieure. Elle ne peut pas continuer à agir comme elle le fait actuellement. Elle achète du pétrole et du gaz à la Russie alors qu'elle est en conflit avec la Russie. C'est embarrassant pour elle et cela a été très embarrassant pour elle lorsque je l'ai découvert. Je peux vous l'assurer.
Natacha, sommes-nous embarrassés par ce qu'ils considèrent être des révélations, sachant que l'Europe, effectivement, importe du pétrole russe, très peu, mais en importe tout de même. Est-ce que c'est un jeu à double, on l'a beaucoup dit, à double détente aussi pour aider l'industrie américaine?
Mais je pense que ce discours est extrêmement important parce qu'il montre, au-delà de l'aspect erratique, au-delà du show de Donald Trump, il montre ce que les États-Unis sont en train de mettre en place comme doctrine, en particulier vis-à-vis de l'Europe. Et le discours était d'une clarté absolue, c'est un discours véritablement d'inféodation, de pression mise sur des gens qui sont des vassaux. Et l'insistance, là où ça fait terriblement mal, c'est que les deux points sur lesquels a appuyé Donald Trump sont des points qui, en effet, dénotent les faiblesses des Européens. La question migratoire et la question de l'énergie. Il le fait à dessein, il tape là où ça fait mal, et c'est pour ça qu'il serait tragique de la part des Européens de rester dans le déni et de dire c'est scandaleux, c'est Donald Trump, il est honteux qu'il se comporte de cette façon, c'est un crypto-fasciste et nous ne changerons rien.
Écoutons
le message. Il pointe la déstabilisation des sociétés européennes sur la question migratoire. Or, il a raison, nous sommes déstabilisés, mais les États-Unis sont en train d'en profiter pour essayer de mettre en place une espèce d'international de partis frères, c'est-à-dire qu'ils veulent étendre le modèle trumpiste à l'Europe.
Avec une dimension civilisationnelle très
profonde.
Voilà,
donc si nous ne réglons pas cette question migratoire, en effet, nous risquons de voir apparaître cet international. Deuxième point, sur la question de l'énergie, évidemment, ça pointe l'absence totale de souveraineté de l'Europe. Le fait que les États-Unis, sur ces questions-là, comme sur les questions numériques, comme sur les questions monétaires, sont en train d'abuser de l'ensemble des goulots d'étranglement qu'ils ont conçus. Et de fait, tant que l'Union européenne ne pensera pas en termes de souveraineté énergétique, ce qui implique la question du nucléaire, ce qui implique le fait d'arrêter de se tirer des balles dans le pied par des dispositifs qui affaiblissent notre industrie, tant que nous ne réfléchirons pas dans cette matière-là, c'est la question par exemple du débat sur EDF en France et le maintien d'EDF comme entreprise nationale, eh bien, tant que nous ne ferons pas cela, nous serons sous le coup de l'hégémonie américaine qui est de plus en plus brutale et violente.
Gilles, sur la notion profonde d'inféodation, de vassalité, sommes-nous dans ce rapport aujourd'hui avec l'Amérique? Et devons-nous écouter, comme le suggère Natacha, le message pour qu'il ne devienne pas absolument réalité?
Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes plus dans un rapport de loyauté, de partenariat, comme on a pu l'être, puisque Donald Trump choisit, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, de cibler d'abord l'Europe dans son discours. Je crois qu'effectivement, c'est un discours important. C'était la première fois que Donald Trump s'exprimait à la tribune des Nations Unies depuis son discours de 2017. Et c'est un discours important à la fois par sa rhétorique et par son contenu. Sa rhétorique, Natacha a utilisé le mot d'erratique. On a eu un concentré en mondiovision d'une rhétorique de Donald Trump qui est un triangle singulier qu'il faut une nouvelle fois analyser, où d'un côté on a premier côté du triangle, une confusion de l'esprit. C'est-à-dire quand on lit le discours de Donald Trump, il n'y a quand même aucune logique, aucune cohérence, aucune construction et aucune argumentation. Deuxième côté, c'est la disparition du réel. On a une multiplication, au mieux d'approximations, au pire de falsifications. Et puis le troisième côté, c'est une autoglorification emphatique et parfois ridicule, quand Donald Trump explique qu'il a eu raison sur tout, qu'il a mis fin à cette guerre. Et il y a un lien entre cette rhétorique et la ligne, parce que je crois que le plus important, Natacha l'a évoqué d'un mot, et même d'un peu plus d'un mot, c'est la ligne. Dans ce qu'a défendu Donald Trump, il y a, je crois, des continuités et des interrogations sur des inflexions. Les continuités, elles sont sur le climat, on va y revenir dans quelques instants. Sur l'ONU bashing, une nouvelle fois, quoi, là, pour le coup, il n'y avait pas que l'Europe, il y avait aussi l'ONU qui était en ligne de mire, avec ce paradoxe de fustiger l'impuissance de l'ONU quand c'est souvent l'utilisation du veto américain qui la rend impuissante. Et puis la focalisation sur l'immigration contre l'Europe, qui est le signal, je crois, d'un combat idéologique sans merci. Et ce combat, c'est la construction de l'immigration qui est vue uniquement comme une source, comme une menace, et comme la source de tous les problèmes, et comme le problème numéro un. Et puis je termine par les interrogations qui étaient dans le discours et qui parfois étaient à côté du discours, dans les réunions que Donald Trump a eues ou dans les tweets qu'il a fait. Sur deux sujets absolument majeurs. Le premier, c'est sur Israël, puisque à la tribune de l'ONU, Donald Trump a repris la rhétorique du gouvernement Netanyahou sur la reconnaissance de l'État de Palestine comme une récompense du Hamas. Mais dans sa rencontre avec des dirigeants arabes, il a, semble-t-il, aussi affirmé qu'il s'opposerait à une éventuelle annexion de la Cisjordanie et donc une potentielle prise de distance avec le gouvernement israélien. Si ça se confirmait, c'est un élément qui est important. Et enfin, sur l'Ukraine, qui est sans doute l'inflexion la plus notable, loin des diatribes contre Zelensky qu'il a pu faire auparavant, de la responsabilité ukrainienne dans cette guerre qu'il a pu avancer, il a expliqué, et je crois que c'est la première fois qu'il le faisait, que l'Ukraine pouvait reconquérir les territoires perdus. On va voir si ça se traduit par un changement, pas seulement de discours, mais de politique, c'est-à-dire un changement d'aide. Je pense qu'il a été sensible aussi à l'évolution de l'opinion américaine par rapport à son discours sur la Russie. Et en tout cas, ça a produit au moins quelque chose qui est une accélération de la politique européenne qui a décidé d'avancer la date à laquelle elle n'achètera plus de gaz à la Russie.
Natacha, oui, ça produit des choses.
Bien sûr que ça produit des choses. Alors, sur la question ukrainienne, la complexité, c'est de savoir exactement ce que valent les paroles de Donald Trump.
Parce qu'il a même dit l'Ukraine pouvait aller au-delà.
Voilà, reconquérir et au-delà, quand on sait d'un point de vue militaire ce que ça signifie comme engagement. Je pense qu'en l'occurrence, il s'agit avant tout pour Donald Trump de mettre en place un rapport de force, parce qu'il a compris que sa précédente tactique ne marchait pas avec Vladimir Poutine. Mais on verra.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
La transition verte et bas carbone est la tendance de notre époque. Bien qu'un certain pays agisse contre elle, la communauté internationale doit maintenir le cap.
Xi Jinping, président chinois, toujours à New York, toujours lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies cette semaine, il répondait en fait à Donald Trump, le même, toujours lui, qui, alors je ne sais pas quel est le côté ou le sommet du triangle que Gilles évoquait, mais qui considérait que le réchauffement climatique est une arnaque. C'est surprenant d'entendre aujourd'hui la Chine devenir le héros du multilatéralisme, le héros du climat, même si les chiffres sont plutôt bons quand on regarde les chiffres chinois, Natacha.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette Assemblée Générale était vraiment un exemple type des grands bouleversements de rapports de force dans le monde. Et sur la question du climat, entre dans ces enjeux. Donald Trump s'est donc payé le luxe de pointer les éoliennes, c'est sa grande obsession, et la façon dont l'Europe gère cette question énergétique, et de fait, je le disais, l'Union européenne veut se donner des airs de bon élève sans se soucier exactement, puisqu'elle importe des produits qui, eux, utilisent des énergies carbonées, donc sans se soucier du résultat final. Et face à cela, on a la Chine qui essaye de mettre, en fait, les États-Unis au banc des nations. C'est ça qui est en train de se passer comme renversement. La Chine mène une stratégie qui consiste à être en pointe sur les technologies décarbonées parce que la Chine a analysé que c'était un des secteurs d'avenir. Et de ce point de vue-là, il se paye donc le luxe de pointer à la tribune Donald Trump. Le discours qui a été retransmis de Xi Jinping disait: notre détermination doit être inébranlable. La transition verte et bas carbone est la tendance de notre temps, même si certains pays vont contre ce courant. Et alors là, c'est très intéressant. Le traducteur a dit « certains pays vont contre ce courant ». La Chine a rectifié derrière en disant « non, c'est un certain pays va contre ce courant ». La communauté internationale doit persévérer dans la bonne direction. Rester déterminé et continuer d'agir sans réduire l'effort. Alors le problème, c'est que quand on regarde dans les faits, les efforts chinois ne sont pas si extraordinaires que cela. Ah. C'est-à-dire que la réduction qui est prévue a un peu déçu ceux qui attendaient qu'il y ait un véritable changement. 7 à 10% d'ici à 2035 par rapport à son pic d'émissions, qui est en fait en ce moment, c'est très bien. Mais on ne peut pas dire que ce soit un bouleversement énorme. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la posture et c'est la façon dont la Chine veut se positionner comme la puissance qui respecte les règles mondiales pendant que l'hégémone dangereux serait les États-Unis.
Gilles, vous vous souvenez, on avait reçu Pierre Charbonnier sur ce plateau qui avait expliqué que précisément les rapports de force tendus pouvaient, contrairement au libre-échange et donc au rapport détendu entre les nations, pouvaient permettre peut-être de lutter contre le dérèglement climatique. C'est un peu ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que la tension Chine-États-Unis, finalement, peut-être produire des résultats favorables pour la question du climat.
C'est intéressant parce que je repensais aussi au livre de Pierre Charbonnier qui était venu
l'an dernier.
L'an dernier, c'est pas tout à fait ça, parce que on voit que dans le retrait américain, la lutte contre le changement climatique n'est pas considérée comme un atout, mais plutôt comme un handicap. Je trouve ce qui s'est passé a une apparence simple, qui est que le climat est la poursuite par d'autres moyens du conflit entre les États-Unis et la Chine. Donc d'un côté, on a vu Donald Trump, vous l'avez dit, dire le climat c'est la plus grande arnaque jamais menée contre le monde, que l'empreinte carbone c'est une supercherie, et que le charbon, c'est une énergie merveilleuse. Bon, donc, d'un côté, on a eu ça. Et d'un autre côté, Natacha l'a dit, le discours de Xi Jinping, où l'élément nouveau et la surprise a été, pour la première fois, l'annonce d'une baisse, non pas d'une stabilisation, mais d'une baisse avec un horizon des émissions, même si c'est certainement moins que ce qu'il faudrait faire. Donc, la conclusion de cette lecture simple, c'est qu'il y a un leadership qui est pris par la Chine contre les États-Unis. Moi, je crois que la réalité est un peu plus sophistiquée, qui est en fait deux batailles. Il y a une bataille géopolitique pour le leadership dans la lutte contre la crise climatique. Et pour l'essentiel, c'est une bataille entre la Chine et l'Europe, où l'Europe avait le leadership et où, dans un moment où l'Europe est plus dans une hésitation, la Chine essaye de reprendre ce leadership, même si, en réalité, l'Europe a fait beaucoup plus que la Chine sur ce sujet-là. Et d'un autre côté, il y a une bataille qui n'est pas une bataille géopolitique, mais qui est une bataille géoéconomique entre la Chine et les États-Unis, où la Chine veut que son engagement dans le combat climatique soit un avantage compétitif pour elle, en maîtrisant à meilleur coût un certain nombre de verticales, notamment sur les énergies renouvelables, quand les États-Unis veulent que leur désengagement dans le changement climatique soit un avantage compétitif pour eux avec une énergie qui est moins chère. Et là-dedans, eh bien, on a une hésitation européenne, et c'est cette hésitation-là, savoir si l'engagement pour le climat, est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est un handicap économique? C'est cette hésitation-là qu'il va falloir lever.
Handicap économique, handicap géopolitique, c'est vrai que les questions qui sont ouvertes sont nombreuses.
Oui, à ceci près que la position de la Chine et celle de l'Union européenne sont très différentes. La Chine produit. Donc quand elle décide de décarboner, elle décarbone quelque chose qui est une production, et une production extrêmement importante. Le problème qu'a l'Union européenne, c'est qu'elle choisit de décarboner quitte à ne plus produire. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que l'Union européenne, dans la mesure où elle reste un marché totalement ouvert, hein, je rappelle que la Chine a accès à 95% des marchés européens. Les Européens ont accès à 2% du marché chinois. Donc, quand l'Union européenne décide de décarboner, en fait, elle fait venir les produits d'ailleurs. Et donc, tant que l'Europe ne réglera pas ce problème-là, sa façon de prendre les problématiques climatiques sera essentiellement hypocrite.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Allez, un mot pour conclure avec cette interview accordée aux Parisiens du Premier ministre Sébastien Lecornu, un Premier ministre au travail, le dit-il, qui érige le bon sens comme valeur et le sérieux comme méthode, ça c'est pour le style. Sur le fond, Gilles, que faut-il retenir de cet entretien qui devait paraître un jour plus tôt, mais la grève aux Parisiens l'a retardé d'une journée. Quand ça veut pas, ça veut pas.
On pouvait se demander si la formule cruelle sous la Troisième République, il ne disait rien et il n'en pensait pas plus, si elle pouvait s'appliquer à Sébastien Lecornu. Là, il en dit un peu, et on peut comprendre encore davantage ce qu'il pense en sollicitant ou en interprétant ses propos. Sur le fond, et donc d'abord sur le projet de loi de finances qui est le premier obstacle qui est devant lui, je crois que la première conclusion, c'est que la rupture promise à ce stade n'est au mieux qu'une rupturette, si je peux utiliser ce néologisme. On voit que les grands équilibres s'inscrivent dans la continuité, c'est vrai sur la réduction du déficit budgétaire, oui, 4,7, 4,6, et sur l'équilibre entre les dépenses et les recettes. On voit qu'il y aura, on ne sait pas encore exactement quoi, une mesure de justice fiscale, des mesures sur la pénibilité et sur les retraites des femmes, et puis des mesures sur les fraudes fiscales et sociales. Mais l'essentiel, c'est ce qu'il n'y aura pas. Suppression de la mesure sur les jours fériés, c'est une confirmation. Mais ni taxe Zucman, ni ISF, ni suspension des retraites, c'est l'information. C'est l'information principale. Donc nous ne savons pas encore ce que sera le projet de loi de finances Lecornu, mais il ressort de cette interview que Sébastien Lecornu sait que le projet de loi de finances, la loi de finances finale ne sera pas votée en l'état, ce qui amène à l'autre point d'un mot qui est sur la méthode, et je pense qu'il était le message principal, au-delà des informations que l'on a sur le calendrier, le périmètre de la constitution du gouvernement, c'est l'idée que le gouvernement, je cite Sébastien Lecornu, est sous la tutelle du Parlement. Et donc, il y aura un projet de loi de finances Lecornu, mais une loi de finances qui sera une loi de finances de l'Assemblée. Et je crois que l'objectif est simple et le message est clair, c'est de gagner du temps en disant au Parti Socialiste, il n'y aura pas de satisfaction dans le projet de loi de finances, mais à charge pour vous de trouver les compromis pour améliorer le texte et le rendre non, si ce n'est votable, en tout cas non censurable.
Il évoque, Natacha, le moment le plus parlementaire de la Ve République et dit « ça ne sert à rien de revoter à nouveau, le Parlement est tel qu'il est, le peuple a raison ».
Voilà, la phrase est intéressante. Dès que les politiques ne sont pas capables de s'entendre entre eux, on va dire que c'est la faute du peuple. Non, le peuple a raison. On va dire que c'est la faute du peuple, ça veut dire qu'il faudrait revoter. Oui. C'est donc une façon d'essayer de voyer le message qu'il ne faut surtout pas de dissolution, donc pas de censure. D'ailleurs, le vocabulaire qu'emploie le Premier ministre est assez intéressant. Il y a un moment où il parle du microcosme, un autre moment où c'est la vie politico-médiatique parisienne, pour essayer d'expliquer que tous les débats qui peuvent aujourd'hui nous agiter sont véritablement des débats qui n'intéressent pas les citoyens, alors que lui serait du côté des citoyens. Pour le coup, la ficelle est un petit peu grosse. Je ne vais pas prendre plus de temps, parce que Gilles a très bien résumé le contenu de cet entretien, et qu'on ne va pas déborder pour, en effet, un entretien dans lequel il n'y avait pas grand-chose. Simplement, je pense que s'il n'y a pas grand-chose, c'est aussi parce que ce qui est frappant, c'est à quel point nous avons une classe politique aujourd'hui qui fait semblant. Qui fait semblant de débattre alors que tous savent qu'ils débattent sur, en fait, de faibles ajustements. Tout ce débat sur la taxe Zucman, tout ce débat, en fait, revient à essayer de faire bouger à la marge tout ça parce que on ne peut pas aborder les questions de fond, qui sont les grands équilibres commerciaux, monétaires, le pilotage de la Banque centrale, etc. Et c'est ça le cœur d'une politique.
Alors, Sébastien Lecornu n'a pas voulu commenter la décision de justice concernant Nicolas Sarkozy et les autres prévenus, on ne les oublie pas, du dossier libyen. Il a apporté tout de même, le Premier ministre, son soutien à la famille et s'est interrogé, c'est intéressant pour notre discussion, sur l'exécution provisoire de la peine. On va en discuter avec nos invités, place au débat du Grand Face-à-Face.
Le Grand Face-à-Face, le débat.
Je crois que ça vaut le coup de faire une large page à cette affaire, à cette histoire. Que dit-elle de la confiance en la justice? Que dit-elle de la confiance dans le personnel politique? On a besoin d'y voir plus clair et pour cela, deux invités nous ont rejoints. Bonjour Anne Levade.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris 1. Vous avez dirigé la haute autorité du Parti Républicain pour les primaires.
Oui, vous me ramenez 10 ans
jusqu'en
en arrière,
2018.
Mais pour que les choses soient claires d'entrée de jeu.
Vous n'êtes pas membre du Parti Les Républicains.
Je n'ai jamais été, voilà. Et donc.
Et je ne le suggérerais pas du tout.
Ça n'est qu'un épisode de ma vie.
Oui. Vous n'êtes pas ici comme étant le discours de la droite.
Certainement
à vos côtés, une avocate pénaliste qui n'est pas le discours de la gauche. Bonjour Marie Dauzé.
Bonjour.
Vous avez publié il y a quelques mois un éloge de la présomption d'innocence avec votre consoeur Julia Minkowski aux éditions de l'Observatoire. La présomption d'innocence est-elle bafouée par la fameuse exécution provisoire de la peine qui fait que, malgré l'appel, Nicolas Sarkozy dormira bientôt en prison? La confiance en la justice est-elle, avec ce jugement, renforcée ou abîmée? Voilà des questions qu'on va vous poser à toutes les deux, mais aussi à Gilles et à Natacha. Mais pour lancer ce débat, je vous propose d'écouter l'ancien président Nicolas Sarkozy quelques minutes après l'énoncé du verdict.
Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister.
Voilà le genre d'archives qu'on diffusera encore dans 10, 15, 20 ans, je le pense. Humiliation, haine, trahison, injustice. J'imagine, Marie Dauzé, que c'est des choses très habituelles de la part d'un condamné, mais ici, l'identité du dit condamné change beaucoup de choses, non?
Oui, évidemment. Et nous entendons ce type de réaction, nous les avocats pénalistes, régulièrement. Ouais. C'est tout à fait normal qu'ils soient en colère, et c'est tout à fait normal qu'ils puissent tenir aussi ce type de discours, même si là, on ouvre la voie à une véritable défiance envers les institutions. Mmh. Ce que je retiens, moi, c'est que il va falloir communiquer autrement. Je crois que c'est Patrick Cohen qui, à votre antenne, a eu un discours très clair sur cela. Passer des heures à lire la motivation d'un jugement, ça ne suffit plus. Le Conseil d'État, lorsqu'il rend une décision, il publie en même temps un communiqué de presse. Le Conseil constitutionnel aussi. Je crois désormais véritablement, et ce n'est pas aux membres du parquet de le faire en application de la loi du 15 juin 2000, mais aux présidents des juridictions, cours d'appel ou tribunaux judiciaires, il faut une communication claire, nette et précise. Une conférence de presse, un communiqué de presse, mais pour qu'avant que ce discours gagne, celui de la défiance, celui de, non pas la justice, mais la vengeance, celui de la partialité, il faut impérativement que la décision de justice soit expliquée dans un exercice de pédagogie qui, malheureusement, l'a fait défaut.
Anne Levade, est-ce que ça veut dire qu'on est ici, au-delà d'une question de justice, à une question de récit médiatique qui peut s'imposer? D'un côté, la justice, il n'y a pas de confiance dans la justice, elle est injuste. D'un autre côté, les politiques sont tous pourris.
Alors, oui, sans doute. En fait, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et la réaction que suscite ce jugement, moi-même, j'ai été amenée à me poser un certain nombre de questions et je vous propose de les partager,
avec
mais
plaisir.
Brièvement. La première, c'est, et Marie Dezé l'a très bien dit, est-ce qu'il est légitime que Nicolas Sarkozy réagisse de la sorte? Oui, bien sûr, personne ne peut lui en vouloir et on ne va pas lui demander de se réjouir de cette décision.
Il a le droit.
Est-ce qu'il en a le droit et il a aussi le droit de contester la décision? D'ailleurs, il a annoncé qu'il faisait appel et tout cela est parfaitement logique. Est-ce qu'il est légitime que cette décision suscite autant d'émotions? Je le crois aussi pour deux raisons. La première raison, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas il est injusticiable comme les autres devant la justice, mais évidemment, lorsqu'il est condamné, on a à l'esprit qu'il est un ancien président de la République. Est-ce que, au motif qu'il est un ancien président de la République, il n'aurait pas dû être poursuivi? Certainement pas. Il n'en demeure pas moins que être condamné, qui, alors qu'il est ancien président de la République, a nécessairement un retentissement particulier. Mais j'ajoute aussi, et vous l'avez dit d'emblée, que le deuxième point, c'est bien sûr l'exécution provisoire. J'observe qu'on ne réagit pas tant au fait que Nicolas Sarkozy soit condamné qu'au fait qu'il va être incarcéré dans peu de temps.
On va y revenir sur l'exécution provisoire, voir ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, pourquoi elle existe, est-ce qu'elle est fréquente, pas fréquente. Se demander aussi si les politiques sont des justiciables comme les autres, sont-ils au-dessus des lois ou en dessous des lois? C'est des questions qui, je crois, concernent notre fonctionnement démocratique. Mais pour qu'on soit bien clair et qu'on ait tous le même niveau d'information sur ce qu'il s'est passé, Gilles, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre? On sait donc 50 ans serait beaucoup, 5 ans, mais... Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné très précisément? Je crois qu'on a besoin de savoir ça avant de continuer.
Alors,
le débat.
Sous le contrôle d'Asleval et de Marie Dosé,
qui vous regarde
de la manière la plus à poids factuellement et synthétique possible. En fait, il y a trois questions qui sont étroitement imbriquées. La première question, c'est pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné? Il a été poursuivi pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Il a été relaxé pour les trois premiers chefs d'inculpation et il a été condamné pour association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, selon le code pénal, je souligne les mots qui sont importants. C'est une entente en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, préparation de crime ou de délit. Et donc, il a été condamné parce que le tribunal a considéré qu'il avait avalisé, c'est le mot du tribunal, d'une part des rencontres entre Claude Guéant, qui était son directeur de cabinet, futur directeur de campagne, futur secrétaire général de l'Élysée, puis...
Condamné à 6 ans de prison.
Puis de Brice Hortefeux, ami futur ministre de l'Intérieur.
Condamné à 2 ans de prison.
Avec Abdallah Seroussi. Abdallah Seroussi qui est numéro 2 du régime libyen. Et surtout, un élément très important dans ce dossier, qui est un terroriste qui a été condamné à perpétuité pour sa participation à l'attentat contre le DC-10 du TA. Donc, cette rencontre-là, cette série de rencontres-là, et d'autre part, les rencontres entre Claude Guéant et Ziak Takieddine, qui est un intermédiaire financier. Donc, le tribunal dit qu'il y a eu ces deux types de rencontres, et que ces rencontres avaient pour objet de, je cite encore, de préparer une corruption au plus haut niveau possible en mettant en place un financement, qui est un financement de 6 millions d'euros du gouvernement libyen vers Ziak Takieddine, qui sert, dit le tribunal, de chambre de compensation, ça veut dire de banque officieuse, et en contrepartie du suivi du dossier fiscal d'Abdallah Seroussi et du maintien de relations avec la Libye. Ça, c'est pourquoi il a été condamné pour association de malfaiteurs? Pourquoi une peine de 5 ans? Le tribunal considère que ça avait pour but de lui permettre d'accéder à la présidence de la République et que donc ce sont des faits d'une gravité exceptionnelle de nature à altérer la confiance, c'est le mot que vous avez utilisé, des citoyens dans les institutions. Et 5 ans, c'est très intéressant, parce que le tribunal dit il encourait 10 ans. Et donc, d'une certaine manière, 5 ans, c'est une peine qui est en deçà, parce qu'il y avait, au moment des faits, une absence d'antécédent. Il n'avait, à l'époque, donc pas déjà été condamné, et parce qu'il y a une absence de mise en œuvre du parc collectif. Donc, 5 ans au lieu de 10 ans, Et enfin, je termine par la dernière question, c'est par laquelle vous avez commencé, qui est l'exécution provisoire. L'exécution provisoire et le mandat de dépôt, en raison de la et c'est là où je dis les choses sont liées entre les trois questions, en raison de la gravité des faits et du quantum, le quantum, c'est-à-dire la peine de 5 ans.
On va s'arrêter sur la question de l'exécution provisoire parce que je sais que c'est au cœur de toutes les discussions, moins sur la peine que sur l'exécution de la peine provisoire, qui fait que Nicolas Sarkozy, malgré son appel, ira en prison dans quelques semaines. Gérard Larcher, c'est pas n'importe qui dans notre Constitution, hein, c'est le président du Sénat, c'est lui qui remplacerait le président de la République s'il y avait une vacance du pouvoir, a tenu des propos très clairs à ce sujet.
Ce qui m'interroge profondément, c'est l'exécution provisoire. Y avait-il un risque pour l'ordre public ? Y avait-il un risque pour le pays ? Donc je m'interroge, et j'ai le droit de m'interroger.
Marie Dauzet, est-ce que vous, en tant que pénaliste, vous vous interrogez aussi sur l'exécution provisoire, sachant que c'est depuis assez peu de temps, de manière assez systématique dans notre droit ?
Alors, c'est compliqué de dire que c'est systématique depuis peu de temps. Non. Je rappelle quand même que sur plus de 80 000 détenus en France aujourd'hui, plus de 20 000 sont présumés innocents. C'est-à-dire qu'entre un tiers et un quart, hein, ça dépend, des prisonniers en France sont présumés innocents, ne sont pas déclarés coupables définitivement. Mmh. Donc cette exécution de peine qui se confronte au respect de la présomption d'innocence, elle ne date pas d'hier, elle a toujours été extrêmement problématique. Et un mandat de dépôt à l'audience après une comparution immédiate, nonobstant l'appel pose une difficulté sur le respect de la présomption d'innocence. Mmh. Donc j'entends l'interrogation du président du Sénat et nous avons tous les mêmes interrogations. Ce d'autant que, vraiment je ne veux pas commenter cette décision de justice, je veux juste essayer de l'analyser.
Oui.
On est sur trois démarches et la difficulté est qu'à l'audience sous le contrôle de tout le monde, le parquet n'a pas requis de mandat de dépôt. Donc c'est un débat qu'il n'y a pas eu à l'audience. C'est-à-dire que la défense n'a probablement pas, moi je n'y étais pas, mais n'a probablement pas argumenté sur mandat de dépôt différé ou exécution provisoire ou pas, puisque ça n'a pas été requis.
D'où la surprise.
Probablement, très probablement. Mais donc la motivation du mandat de dépôt, ce que disent les magistrats, c'est exceptionnelle gravité des faits et le quantum prononcé 5 ans. Motivation du mandat de dépôt différé. Ça, pour moi, le mandat de dépôt différé, je vous le dis très clairement, c'est un progrès. Pourquoi ?
Ça veut dire quoi d'abord ? Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y aura incarcération, mais plus tard. Et on va convenir d'une date, alors évidemment dans un laps de temps strict, mais on ne passe pas de la case garde à vue à la case tribunal à la case prison. Et c'est essentiel, notamment en matière de réinsertion. Parce que lorsque vous êtes incarcéré immédiatement après un jugement, vous perdez tout. Vous perdez votre travail, vous perdez votre logement, que ce soit pour 6 mois ou 1 an, vous ne vous préparez pas à l'incarcération. Le mandat de dépôt différé, il avait pour dessein justement d'organiser les choses avant...
Oui, mais là, dans le cas de Nicolas Sarkozy.
Mais ils le disent, les magistrats. Mmh. Il a répondu à toutes les convocations, il est toujours présent à l'audience et il faut qu'il organise sa vie privée et professionnelle. Et il est vrai qu'il a probablement des obligations professionnelles, il doit préparer sa famille à cette incarcération et un mandat de dépôt à l'audience, c'est extrêmement violent. Mmh. C'est extrêmement violent parce que...
Deux des autres prévenus ont eu un mandat de dépôt à l'audience, voilà. Notamment Alexandre Djouri.
Voilà. Donc, véritablement, on ne peut rien préparer, et je pense encore une fois que ça c'est un vrai progrès, les mandats de dépôt différés. Mais après, vous avez le mandat de dépôt différé avec ou sans exécution provisoire. Si c'est avec exécution provisoire, de toute façon, vous serez incarcéré nonobstant l'appel. S'il n'y a pas d'exécution provisoire et que vous interjetez appel, le mandat de dépôt ne s'exécute pas. Donc, s'il n'y avait pas eu de mandat de dépôt différé, avec exécution provisoire, Nicolas Sarkozy aurait interjeté appel et ne serait pas allé en prison. C'est l'exécution provisoire qui le fait nécessairement passer par la case prison. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il va aller en prison, c'est inéluctable. Le jour même ou le lendemain, il va déposer une demande de mise en liberté et la cour d'appel va devoir statuer dans un délai de 2 mois. Et je suis quasiment persuadée qu'il sera remis en liberté puisque la Cour d'appel n'aura pas le temps d'organiser le procès en appel dans le temps qui lui sera imparti. Donc voilà, mais il est vrai que... Moi, je m'interroge...
On a envie de dire quand même tout ça pour ça.
Voilà, mais comme, comme pour toutes les personnes que je défends, j'ai une difficulté avec l'exécution provisoire parce que la position de Nicolas Sarkozy, comme de beaucoup de justiciables, c'est « je suis innocent » et que cette exécution provisoire, 20 ans après les faits, on est 20 ans après les faits, pose probablement quand même une difficulté.
Mais Anne Levade, l'argument de Gérard Larcher qu'on entendait n'a aucun sens par rapport à ce que vient de dire Marie Dosé. Il y a pas de, c'est pas la question du trouble à l'ordre public qui justifie ou pas l'exécution provisoire. Vous avez dit c'est le canto, mais c'était pas prévu. Et la gravité des faits, c'est pas le désordre public qui ferait qu'on doit le mettre vite en prison.
C'est ce que le tribunal indique. Hein. Ouais. La motivation de l'exécution provisoire, ouvrez les guillemets, indispensable pour garantir l'effectivité de la peine au regard de l'importance du trouble à l'ordre public causé par l'infraction. Voilà. Donc je laisse.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire le trouble de l'infraction par le passé ou ce qui peut se passer s'il restait en liberté en attendant un nouveau procès? C'est ça
cette
la question.
Cette formule qui est utilisée par le juge, elle avait aussi été utilisée dans le jugement relatif à Marine Le Pen.
Oui.
Il avait été question d'un trouble à l'ordre public démocratique. Je rappelle qu'à quelques semaines d'intervalle, ce sont évidemment dans les deux cas l'exécution provisoire qui fait réagir. Et l'idée, c'est donc la motivation du juge. L'idée, c'est évidemment l'appréciation que le juge lui-même, que le tribunal lui-même, porte sur une situation factuelle et ce qu'il estime être la réponse adaptée, puisque c'est ainsi qu'il définit la peine et les conditions de sa mise en œuvre, ce qu'il estime être la réponse adaptée à la sanction qu'il veut mettre en œuvre. Mmh. Donc, on peut contester l'appréciation portée par le juge, ça c'est un premier niveau. Et là, on est sur la contestation d'une décision. C'est pour ça qu'existent des voies de recours et c'est la raison pour laquelle il y a possibilité de faire appel et qu'il est possible qu'en appel, la solution soit inverse de celle qui aura été prise en première instance. Première chose. Mais le deuxième terrain, c'est que si le tribunal correctionnel prend cette décision, c'est parce que il s'inscrit dans un cadre légal par lequel on l'autorise à prendre cette décision ou à en prendre une autre. Le propre d'une décision de justice, c'est d'individualiser la peine. C'est-à-dire d'adapter, sur la base de l'appréciation portée par les juges, la solution qui est apportée à l'appréciation qu'ils portent sur les faits. C'est là qu'il faut vraiment faire la différence. Et je pense, mais je ne suis pas là pour interpréter les propos de Gérard Larcher, ce qu'il me semble comprendre de ses propos, sans doute il a une réaction à la condamnation visant Nicolas Sarkozy en tant que tel, mais manifestement il n'est pas illégitime que le président d'une assemblée s'interroge au vu de certaines applications concrètes, mais qui ne sont que des applications très marginales par rapport à la réalité à laquelle faisait référence Marie Dosé, que peut-être la loi à cet égard n'atteint pas l'objectif poursuivi par le législateur. Peut-être le législateur n'a-t-il pas lui-même anticipé tous les effets d'une loi. Ça ne veut pas dire changer la loi pour éviter des cas particuliers. Ça veut dire, et c'est un cas général, que le législateur en permanence s'interroge sur la réadaptation de la loi au vu de son application.
Mais quand on voit le débat sur l'exécution provisoire, mais du cas Nicolas Sarkozy, est-ce que le trouble à l'ordre public, c'est pas précisément d'avoir pris cette décision-là ?
Non, juste une petite précision à qui, moi, me paraît essentielle. 85% des peines d'emprisonnement égal ou supérieur à 5 ans sont immédiatement exécutés. Non mais, je veux dire, c'est parce que...
Mais on juge spécifiquement un homme plutôt qu'un autre.
Oui, oui, mais 85% des justiciables qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans voient leur peine immédiatement exécutée. Pardon, c'est cette question-là qu'il se pose, qui
doit être posée. Compléter d'un mot, parce que ça m'a frappé aussi. En réalité, c'est pour ça qu'on se focalise sur la question de l'exécution provisoire, mais qu'il y a, en gros, c'est l'ensemble que j'évoquais, des trois questions que j'évoquais, qui sont totalement imbriquées. Parce que dès lors qu'il y a condamnation pour association de malfaiteurs, une peine de 5 ans,
L'exécution provisoire, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est mécanique, puisqu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels elle n'est pas prononcée, mais c'est quand même la règle la plus couramment appliquée.
C'est pour ça que le sujet nécessite, à mon avis, en effet, de revenir à la globalité de ce que nous dit cette décision de justice. Et le plus dangereux, c'est qu'en effet, dans le bruit qu'on entend actuellement, le bruit médiatique, sur les réseaux sociaux, les interprétations, on a des raccourcis de tous les côtés d'ailleurs, et qui ne vont pas permettre d'apaiser. Cette décision de justice a été rendue au nom du peuple français. Le but d'une décision de justice rendue au nom du peuple français est que la communauté nationale se rassemble et se dise que justice a été rendue, que les choses sont bien faites et qu'on peut donc passer à autre chose, qu'en effet, il n'y a plus de trouble à l'ordre public par l'existence même de l'infraction. Or là, c'est tout l'inverse et c'est la difficulté de ce jugement. Mais c'est tout l'inverse, pas seulement à cause de l'exécution provisoire. C'est la complexité même de ce dossier qui aboutit à cela. Pourquoi ? Parce que la question des trois actes d'accusation qui ont été mis de côté et celui qui reste, l'association de malfaiteurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas pu être prouvé que l'argent avait nourri réellement la campagne présidentielle. En revanche, ce qu'on lit partout dans le jugement, ce sont des phrases comme « Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas être au courant. Il est impossible que Brice Hortefeux n'ait pas rendu compte aux candidats. » Et même une phrase qui est assez intéressante, le soin particulier que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont mis à présenter Nicolas Sarkozy comme étant étranger à ce processus corrobore au contraire le fait qu'il en était parfaitement informé.
Les juristes veulent réagir.
Mais c'est ça, je pense qu'il faut réagir parce que le réflexe est de dire mais vous voyez, il était condamné d'avance, en fait plus on dit qu'il est innocent et plus il est. Et je ne crois pas. Je crois que ce jugement a été la juge a été au maximum prudente. Le fait d'écarter la note de Mediapart, par exemple, prouve que vraiment le jugement a voulu écarter tout ce qui pouvait être soupçonnable.
Ce qui n'a pas empêché.
Voilà, mais que le résultat,
le jugement d'être paradoxalement, comme soupçonnable.
Paradoxalement, le fait d'avoir écarté un maximum de choses qui pouvaient être douteuses donne l'impression qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Et donc, je pense que c'est à ça qu'il faut répondre et qu'il faut analyser.
Anne Levade, est-ce qu'on ressort de ce propos de Natacha l'hypothèse ou l'idée qu'il est impossible de juger de manière sereine des personnalités politiques de ce rang-là ? Soit on vous dit que vous n'en avez pas fait assez, soit vous en faites trop, soit bref.
Alors, le regard porté sur une décision de justice relative à des personnalités politiques de ce rang-là, sans aucun doute, est un regard qui, aujourd'hui, est empreint de soupçons, ce que je déplore, parce que il me semble qu'il n'y a plus de confiance dans la justice, ce que je déplore plus encore, et de manière générale, et En réalité, presque jusqu'au bout du propos de Natacha Polony, j'avais envie de lui dire qu'elle contribuait à ce qu'elle-même dénonçait, puisque le simple fait de sortir sur une motivation de 380 pages quelques phrases qui, effectivement, telles qu'elles sont rédigées, peuvent laisser penser que le juge a eu un doute et que c'est sur la base d'un doute qu'il a prononcé la décision. Sauf que, bien sûr, ce ne sont que quelques phrases dans 380 pages. Totalement argumenté.
Et donc, je n'ai absolument plus pas de remis en
cause. Non, mais j'ai bien entendu à la fin.
Justement.
C'est toute la difficulté tient effectivement au fait qu'ont été extraites des phrases. J'ajoute.
D'où la proposition de Marie Dosé de faire une conférence de presse.
Bien sûr.
De résumer, d'expliquer, de faire de la pédagogie.
Oui, je rebondis sur ce qui a été dit par Natacha Polony. On oublie qu'effectivement, sur 4 infractions, 3 relaxes ont été prononcées. Et la motivation de ces relaxes est extrêmement importante. Sur la corruption passive, il suffit d'un pacte de corruption. Elle est écartée, cette infraction. Nicolas Sarkozy a agi non pas comme ministre de l'Intérieur, mais comme candidat, donc il n'était pas encore dépositaire de l'autorité publique. Sur le recel de détournement de fonds publics étrangers, ça n'est pas punissable comme la complicité. Et sur le financement illicite, l'argent liquide existe certes, mais il n'est pas établi que cet argent provienne des fonds libyens. Donc, il a été jugé en équité. Maintenant, si on s'interroge sur l'association de malfaiteurs, je suis suffisamment confrontée à cette infraction pour savoir qu'il y a lieu parfois de s'interroger sur l'ampleur de cette infraction, qu'on qualifie parfois d'infraction fourre-tout. Mais là, en l'occurrence, Et d'abord, petite parenthèse, hein, infraction supprimée par Robert Badinter en 83 et rétablie par le gouvernement Chirac en 86. Bon, mais l'association, et oui, parce que
son application en matière délictuelle.
Exactement,
pourquoi
très exactement.
Pourquoi Robert Badinter
parce que c'était considéré comme une loi liberticide. Parce qu'on est bien en amont de la tentative.
Ça existe. Pardon, je
vous en prie.
J'interviens, mais ça existe depuis
1810.
L'association de malfaiteurs. Mmh. Mais ça existait en matière criminelle, c'est-à-dire pour les actes les plus graves. Ouais. Et c'est progressivement
complot,
que ça a été étendu à des délits, ce qui, là, est visé dans le cas de Nicolas Sarkozy.
Et on est effectivement face ici à un groupement formé ou à une entente établie, vous l'avez dit, et sur on est bien en amont de la tentative ou du commencement d'exécution. Donc évidemment que on peut trouver dans le jugement des phrases qui justifient les décisions de relax et qui nourrissent le délit d'association de malfaiteurs. Mais ça, c'est la loi. Et je rappelle quand même que cette association de malfaiteurs, elle est toujours soutenue par la famille politique de Nicolas Sarkozy, comme d'ailleurs l'exécution provisoire. Là aussi, j'en ai pas pour très longtemps, mais nous sommes confrontés quand même à un garde des Sceaux aujourd'hui qui passe son temps à expliquer que la justice est laxiste, qu'il faut aller plus loin dans l'exécution provisoire, qu'il faut, et je le cite, hein, sanctionner par une peine d'emprisonnement ferme tout de suite, avec une exécution provisoire tout de suite, même lorsque le tribunal prononce 6 mois d'emprisonnement. Donc, attention aussi, hein.
C'est pas l'un des seuls paradoxes. On peut aussi s'étonner de la gauche qui préfère souvent d'autres solutions que la prison, là, qui se félicite de l'envoi en prison de Nicolas Sarkozy.
De toute façon, je trouve que la grande majeure partie des réactions de la classe politique est indigne et que très franchement, alors qu'on est en train de baigner dans un populisme extrêmement dangereux, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des réactions un peu plus sages et plus responsables.
Alors justement, sur ce populisme pénal, Gilles, la confiance en la justice, qui a été évoquée par Anne Levade. Anne a dit à un instant, il n'y a plus de confiance en la justice. Où en est la confiance en la justice? Où en est aussi, évidemment, c'est l'autre dimension, la confiance dans les politiques?
Le baromètre annuel du CVPOF sur la confiance répond à ces deux questions et l'enquête annuelle sur les fractures françaises que réalise la Fondation Jean Jaurès, aussi avec le CVPOF, qui est en ce moment sur le terrain, y apportera des éléments récents à la lumière, y compris de l'actualité. La dernière enquête, donc, date de février de cette année. Confiance dans la justice, 44% des Français. Si on essaye de mettre en relation avec les autres institutions, on est un peu plus de 20 points en dessous de la confiance dans la police, mais on est 20 points au-dessus de la confiance dans la politique, dans les partis ou dans les médias. C'est à peu près stable depuis 15 ans. Et en revanche, on est loin derrière la confiance de la justice qui peut exister en Allemagne. Mmh. Et sur le sentiment que les responsables politiques sont honnêtes ou corrompus, c'est aussi une des questions qui est posée. Là, on est à 74% de Français qui disent en règle générale, les responsables politiques sont corrompus. 74%. Là aussi, c'est stable depuis 10 ans et on est beaucoup plus défiant que ne le sont les Allemands ou les Néerlandais qui étaient interrogés dans la même enquête.
Natacha, c'est quand même assez dangereux. Deux institutions, alors l'une encore moins que l'autre, mais qui suscitent peu de confiance et qui se tapent l'une sur l'autre pour affaiblir encore plus l'adversaire. Juste, Marine Le Pen sur LCI, un certain nombre de magistrats ont une sorte de tableau de chasse où ils essayent d'épingler un maximum de politique cette semaine. Natacha.
En fait, le problème qu'on a, c'est sans doute beaucoup un problème de compréhension de la part des citoyens de ce genre de décision et du fonctionnement même de la justice. Pourquoi ? Parce que la pédagogie est rarement faite, mais avec des questions qui sont légitimes. C'est-à-dire que quand, par exemple, sur le cas de Marine Le Pen, il est évoqué un trouble à l'ordre public démocratique, on a l'impression d'une justice qui, à un moment donné, se place sur le plan moral et sur le plan politique, plutôt que sur le pur plan juridique. En l'occurrence, la question de savoir s'il faut qu'un candidat à une élection présidentielle qui a été reconnu coupable en première instance, et encore une fois avec un procès qui était accablant, mais vraiment, le dossier était suffisamment nourri. Mais est-ce que, donc, c'est la justice qui doit décider ce qu'est ce trouble à l'ordre public démocratique? Ça, c'est une question, à mon avis, importante.
C'est en tout cas la
deuxième étant la question.
Qui doit décider s'il y a exécution provisoire ou pas, donc motiver
oui,
sa décision.
Oui, mais vous voyez bien que ça se cogne entre le politique et tous les débats qu'on a sur l'état de droit, en fait, portent là-dessus. C'est-à-dire, quelle est la part du rôle de la justice, quelle est la part de la libre décision des citoyens, et tout cela se déséquilibre petit à petit, est très complexe en effet, et moi je n'ai pas de réponse facile à ces questions-là.
Anne Levad,
mais je pense que ça mérite d'être posé.
À lever l'œil.
Oui, j'ai levé l'œil parce que il y a un premier constat qui est désolant, c'est qu'il n'y a plus de confiance présumée dans la justice. Ce qui en soi est évidemment un sujet, c'est-à-dire que pendant des décennies, lorsque le juge tranchait, on considérait par principe que la solution qu'il rendait était la bonne, en admettant que la fonction sociale de la justice, c'est de pacifier, d'apaiser, de civiliser, et donc de trancher indifférent. Et dans ce cadre, selon le type de juge que l'on a, dans le cadre du juge pénal, il s'agit de dire si, oui ou non, quelqu'un a violé la loi et, ce faisant, a commis une infraction. Bon. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire que l'on est dans la position inverse. Il y a, en amont, une défiance à l'égard de la décision qui est rendue. Raison pour laquelle on cherche à la lire et à la comprendre. Ce qui, en soi, est une démarche très saine, mais en oubliant que le droit a son langage. Et que donc, évidemment, lorsqu'on parle d'ordre public dans une décision de justice en matière pénale, ou d'ordre public démocratique dans le cas du jugement de Marine Le Pen, ça n'est pas la définition de l'ordre public que l'on utilise, par exemple, pour dire on va interdire une manifestation à tel endroit, car il y a une menace de trouble à l'ordre public. Le droit est une construction intellectuelle. Je ne suis pas en train de dire que pour ce motif, ça échappe à la compréhension. Je suis en train de dire qu'un peu comme une langue étrangère, parfois, elle suppose que l'on comprenne chacun des termes qui est utilisé dans son contexte juridique. C'est là qu'effectivement les magistrats sont aujourd'hui, et je partage ce que disait Marie Dosé, sans doute contraints d'expliquer en des termes non juridiques ce qu'ils sont en train de faire. En revanche, et je termine juste là-dessus, là où la mise en cause de la justice, notamment par des responsables politiques, parlementaire ou membre de l'exécutif, de manière générale, et je ne parle ni de l'affaire Sarkozy ni de l'affaire Le Pen, est problématique, c'est bien évidemment parce que, faisant cela en réalité, ils sapent leur propre légitimité et leur propre autorité. La justice est là pour l'application de la loi. Contester les conditions d'application de la loi par le juge, ça veut dire contester pour un parlementaire la manière dont le Parlement a prévu que le juge intervient, et donc mettre en cause la propre portée de la loi et son effectivité, et c'est tout le système qui s'effondre.
Gilles, j'ai une question alors à vous deux pour essayer d'avancer et de comprendre comment on peut améliorer cette situation et la lisibilité des décisions de justice. La règle à laquelle doivent se conformer les juges, je cite, c'est « le magistrat ne commente pas ni n'ajoute à ses propres décisions qui, par leur motivation, doivent se suffire à elles-mêmes ». Donc on est
communiquer
dans un monde dans lequel
commenter.
On pense que l'écrit suffit. Ma question c'est, est-ce qu'il faut que le jugement soit publié, pas seulement lu, mais publié immédiatement parce que le rythme du débat fait que s'il intervient plusieurs jours après, eh bien, on n'a pas les éléments pour comprendre, ou est-ce qu'il faut que les magistrats qui ont rendu la décision viennent l'expliquer et éventuellement même le traduire dans des termes qui soient compréhensibles pour les Français.
Marie Dosé.
Oui, la décision ne se suffit plus à elle-même. Ça, c'est, je pense vraiment que c'est terminé et on ne peut pas laisser le parquet, l'autorité de poursuite, expliquer une décision de justice. Là, par exemple, le parquet a requis la culpabilité de Nicolas Sarkozy sur 4 infractions. Il ne peut pas ensuite venir expliquer les 3 décisions de relax intervenues alors même qu'il s'y était opposé. Il faut impérativement que les magistrats qui délibèrent véritablement fassent un travail de pédagogie. Et encore, vous avez raison de le dire, expliquer, ça n'est pas commenter. Publier une décision de justice de 380 pages, ça ne va rien résoudre. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement compliqué. Les tenants et les aboutissants, regardez, le mandat de dépôt différé, l'exécution provisoire ou pas, le quantum, pourquoi est-ce que l'association de malfaiteurs est punie de 10 et pas de 5 ? Parce que l'infraction principale est punie de 10 ans. C'est extrêmement compliqué. Ça n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut d'abord accompagner la lecture de la motivation d'un communiqué de presse. Et il faut que les magistrats s'arrêtent, notamment sur ce que vous disiez, Natacha Polony, sur l'ordre public démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire dans une décision de justice que l'ordre public démocratique? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'un mandat de dépôt est essentiel à l'efficience d'une peine d'emprisonnement de 5 années? Ils doivent l'expliquer, pas la commenter, mais l'expliquer parce qu'on est dans une société de surcommunication et qu'on ne parviendra pas à respecter les décisions de justice si on ne les comprend pas.
En l'occurrence, les 5 ans, justement. Dites-le, en quoi le mandat de dépôt avec exécution provisoire est nécessaire pour exécuter les 5 ans?
En quelques secondes, pardonnez-moi Marie Dosé, et puis Anne Levade pour terminer.
À un moment donné, les magistrats considèrent que lorsqu'une peine est importante, comme une peine de 5 années, elle doit être efficiente.
Exactement.
Et que
La longueur derrière l'appel
va être audiencée dans combien de temps si la personne n'est pas placée sous mandat de dépôt? Mais en même temps, autant être honnête, on sait très bien que s'il est placé sous mandat de dépôt, on n'arrivera pas à organiser le procès dans le temps qui est imparti.
Alors le temps imparti pour nous, il est presque terminé aussi. Anne Levade, juste un demi-mot là-dessus. Est-ce que c'est pour vous une exigence démocratique que pour la justice de commencer à parler la langue que nous parlons tous?
Il ne faut pas que la justice rende ses décisions dans le langage commun, parce que le droit, c'est qualifier des faits avec des termes juridiques. Et les mots ont donc un sens particulier, donc il est normal que les décisions de justice soient en langage juridique. Mais aujourd'hui, vraisemblablement, il faut le traduire.
Et vous l'avez fait, je crois, pendant une quarantaine de minutes. Merci à toutes les deux, Anne Levade et Marie Dosé. Merci Gilles, merci Natacha, merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Declat à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation, aujourd'hui Laurent Baudouin à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.